À 6h40, c'est maintenant l'heure du journal des idées. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, en ce vendredi matin, vous nous faites partager un rêve confiné d'aubes marines, d'embrun et de vagues à l'algue.
Oui, pour se déconfiner l'esprit, c'est à Romain Rolland que l'on doit l'expression de sentiments océaniques dans ses échanges avec Freud. Il s'agit d'une sorte d'élan mystique, de confusion avec le grand tout, comme la vague dans l'océan. L'écrivain y voyait l'expérience majeure des religions asiatiques. C'est ce que rappelle la psychanalyste Drina Candidis Huysmans dans la revue Quinzaine, qui consacre un dossier à penser, écrire, filmer la mer. Freud n'est pas mystique dans Malaise dans la civilisation, qu'il dédie à Romain Rolland. Il discute la pertinence de cette notion et la rabat sur la psychopathologie d'un état où la délimitation d'une frontière entre le moi et le monde devient incertaine. Il la renvoie d'ailleurs à d'autres images, le silence du désert, les cimes montagneuses ou l'immensité céleste. Mais, souligne la psychanalyste, l'image de la mer, constamment agitée, du mouvement des vagues et des marées, représente une rythmique temporelle qui nourrit mieux qu'aucune autre une sensation d'éternité. Là où la ligne d'horizon devient un point de fuite, après Freud, Winnicott analysera le sentiment océanique comme une crainte de l'effondrement, l'angoisse d'une chute qui ne connaît pas de fond, la trace traumatique d'une défaillance, d'un défaut de portage dans les soins maternels. Et il est vrai que le sentiment océanique a un lien fort avec la naissance de soi et du monde. Entre le vide et l'événement pur, j'attends l'écho de ma grandeur interne. Amère, sombre et sonore citerne, sonnant dans l'âme un creux toujours futur, chantait Paul Valéry dans Le cimetière marin, vous l'aurez reconnu, Daniel Bergès, qui publie une anthologie littéraire illustrée par les peintres, Écrire la mer, souligne le défi de la représenter. Il faut attendre Courbet et l'impressionnisme pour que la touche, par son épaisseur et le mouvement qu'il apporte, en donne l'équivalent pictural. Là aussi, l'horizon est une ligne de fuite et une gageure pour les peintres que Claudel désignait ainsi dans son introduction à la peinture hollandaise, limite ou point de liaison, de séparation ou de transvasement du liquide en gazeux. Et ce n'est pas qu'une image. Les océans couvrent près de 80% de la surface de la Terre. Ils sont à l'origine de la formation de l'atmosphère, notamment de son oxygène, grâce à la photosynthèse produite il y a des milliards d'années par des micro-organismes pourvus de pigments spécifiques comme l'illustre chlorophylle. Et ils absorbent d'énormes quantités de CO2, modérant ainsi l'effet de serre. Les acteurs discrets de cette constante régénération, ce sont les planctons, mais aussi les algues, dont certaines se sont hissées hors de l'eau pour former la végétation. Elles sont 650 espèces différentes, rien que sur les côtes bretonnes, toutes plus belles et sophistiquées les unes que les autres. Bon, passons sur celles envahissantes qui pourrissent nos étés, conséquence des tonnes de lisier ou de fumier produits dans la région, équivalente aux déjections de 50 millions d'habitants. La revue Salamandre consacre un dossier à ces créatures ductiles et aériennes aux étonnantes formes de vie. Outre leurs pigments qui favorisent la photosynthèse, celles qui sont visibles sur l'estran à marée basse forment ce désordre échoué qu'on appelle varech ou goémon. Le film visqueux que sécrètent ces végétaux leur assure une certaine humidité quand la mer se retire. Il leur permet aussi de coulisser les uns sur les autres sans s'en mêler ni se déchirer dans le ressac, précise Nathalie Torchman. Dans la partie supérieure de l'estran, la pelvétie, aux confins des mondes terrestres et marins, peut rester plusieurs jours sans voir la mer. Elle se dessèche mais ne meurt pas grâce à la symbiose avec un champignon. L'ascophyllum, ou goémon noir, est pourvu de flotteurs qui lui permettent de se rapprocher de la surface et de la lumière à marée haute. Un échelon intermédiaire, en quelque sorte, avant la sortie de l'eau qui donnera les mousses, les prêles et les fougères. Il aura suffi pour cela qu'elle s'arme d'un squelette pour compenser l'effet de la pesanteur. Les fonds marins sont aussi le terrain d'énormes phénomènes volcaniques, mille fois plus nombreux que ceux qui se produisent en surface, mais inaperçus. Là, c'est l'eau qui met le feu aux poudres. La dernière livraison de la revue Relief est consacrée aux volcans. Michel Detay, géologue et volcano spéléologue nous invite à une savante plongée dans la plomberie magmatique de ce cryptovolcanisme où la molécule d'eau joue un rôle essentiel, tout comme en surface d'ailleurs.